Nous avons le privilège maintenant de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Je vais encore prier avant d'entamer le message. Alors inclinons-nous et prions. Seigneur, vraiment nous te remercions encore de tout cœur ce matin pour ce culte, Seigneur, pour la Sainte Cène où nous pouvons venir et nous placer devant toi encore une fois. Et Seigneur, te remercier pour ton pardon en Jésus-Christ total, absolu, Seigneur, qui nous garantit en plus la vie éternelle dans ta présence pour l'éternité. Seigneur, ce sont des choses extraordinaires et vraies. Et Seigneur, ce rappel que nous faisons chaque mois, Seigneur, c'est un moyen simplement de nous repositionner devant toi. Et nous aimons ta parole parce que tu nous l'as donnée, elle est vraie en toute chose, Seigneur, elle nous sanctifie. Et encore ce matin, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est vérité. Et Seigneur, à toi la gloire maintenant, au nom de Jésus. Amen. Voilà, écoutez, ce matin, nous continuons notre étude de 1 Timothée, et j'ai intitulé mon message « Une vie transformée ». Une vie transformée, et avant d'aller à 1 Timothée 1, et les versets 12 à 17, je vous invite à prendre vos Bibles et aller à Nombre, oui, dans l'Ancien Testament, Nombre 25. Nombre 25, que je crois va nous aider à comprendre ce que nous allons voir ce matin. Nombre 25. Et là, il y a une histoire absolument incroyable, vraie bien sûr, choquante. Hein, on va être choqué par cette histoire, mais elle va nous aider à comprendre l'apôtre Paul et son mobile dans ce qu'il a fait, surtout avant d'être le plus grand missionnaire de tous les temps. Alors nous sommes dans Nombre 25 et le verset 1. Et voici le problème qui arrive ici lorsque le peuple d'Israël se promène encore dans le désert. Il est écrit ceci. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Débauche sexuelle avec des femmes dites païennes. Et regardez ce qui se passe. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Donc il y a maintenant débauche sexuelle liée à l'idolâtrie. La conséquence, verset 3, Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Dieu n'est pas content par ce double péché grave. Alors regardez ce qui se passe au verset 4. L'Éternel dit à Moïse, donc Dieu parle à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Oui, vous avez bien lu, Dieu ordonne la mort des coupables. C'est pas nouveau, on l'a lu tout à l'heure dans la Sainte Cène, même dans le Nouveau Testament, parfois, Dieu punit par la mort, en Corinthiens 11. Alors Moïse, verset 5, dit aux juges d'Israël « Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. » Et voici, et ça c'est la partie vraiment choquante, « Et voici un homme des enfants d'Israël, donc un juif, vint et amena vers ses frères une madianite, donc une païenne, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. » Alors là, bien que ce n'est pas peut-être clair dans nos Bibles, c'est clairement un acte de débauche sexuelle devant la tente d'assignation, devant le tabernacle, là où Dieu était censé rencontrer son peuple. Alors regardez ce qui se passe au verset 7. « À cette vue, il y a un homme, un juif, qui est choqué par ce qu'il voit, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, donc c'était apparemment une tente qui était placée juste devant ou à côté de la tente d'assignation, ou certains pensent que c'est carrément la tente d'assignation, le tabernacle. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, regardez le détail, je ne vais pas le décrire, l'homme d'Israël, puis la femme par le bon ventre. Avec un coup de lance, il transperce les deux, d'un coup. J'ai pas besoin de faire un dessin. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Et il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. Dieu n'était vraiment pas content par ce qui se passait. 24 000 personnes ont perdu leur vie. Mais regardez verset 10. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Phiné, fils d'Éliézer, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Donc Dieu dit, j'aimerais honorer cet homme Phinéas qui a osé faire ce qui était juste. Et dans ce cas, c'était d'exterminer ces pécheurs. Alors que c'était un problème sexuel, on le sait au verset 14, l'homme d'Israël qui fut tué avec la Midianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle de Simeonite. La femme qui fut tuée, la Midianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsour, chef des peuplades issues d'une maison paternelle en Madian. Donc on a même le nom de ce couple qui a péché de manière si terrible devant le Seigneur. Alors vous dites, John, pourquoi ce texte maintenant? Eh bien parce que ce texte et d'autres encore étaient certainement un des textes bibliques que Paul a utilisé comme justificatif biblique pour ses persécutions acharnées contre les chrétiens. C'était un exemple. Voyez-vous, le récit de Phiné montre que la colère de Dieu contre cet acte exécrable entre Zimri et Cosbi et contre le peuple pour l'avoir permis fut différée par l'intervention d'un homme qui s'appelle Phiné. Et Dieu a honoré Phiné pour son zèle et pour avoir ôté l'apostasie d'Israël en mettant à mort ces deux horribles offenseurs. Paul, et pour lui donc, la logique était claire. Dans son contexte du Nouveau Testament, quel était le problème? Eh bien, il y avait un homme qui s'appelait Jésus-Christ. Et pour lui, c'était clair. Jésus-Christ était un faux Messie, un faux prophète. Il n'était pas du tout le Messie promis dans l'Ancien Testament. Et en fait, le fait qu'il entraînait tellement de monde, Jésus-Christ était en train d'inciter les Juifs à l'idolâtrie. Parce que Jésus-Christ acceptait qu'on l'adorait. Et ça, c'était une idolâtrie. Et la montée prodigieuse du christianisme devait donc être arrêtée, et vite. Et Paul s'est probablement dit, mais avoir Dieu a honoré Phiné pour avoir tué des idolâtres, débauchés sexuels, eh bien, moi aussi, je serai honoré pour mon zèle à l'égard de Dieu. Alors, vous connaissez les persécutions de l'apôtre Paul. Dans chapitre 7 de Actes, nous voyons comment il s'y est pris. Juste quelques versets, regardez, Actes 8, 3. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Donc Paul était animé d'un zèle, c'était un juif, un pharisien, il aimait Dieu et pensait qu'il faisait une faveur à Dieu en éliminant les chrétiens. Et donc, il y allait à fond. Dans Actes 22, il donne son témoignage à plusieurs reprises. Au verset 4, il dit, « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. » Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Donc il dit, voilà, j'étais tellement zélé, j'ai même reçu des lettres pour me donner autorisation d'aller chercher, débusquer les chrétiens jusqu'à Damas et les ramener pour les juger, les mettre en prison et les juger. Et encore dans Actes 26, c'est le verset 9. Pour moi, dit Paul, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Voyez-vous, il pensait qu'il devait, que c'était bien que Dieu approuvait le fait d'agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignis mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Et dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusqu'à dans les villes étrangères. Et encore dans Galates 1:13, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Donc c'est le judaïsme, avec bien sûr justificatif ancien testamentaire comme on l'a vu ce matin. C'est probable. Il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Et comment, regardez ce qu'il dit, j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Oui, c'était un juif, le top, le summum des juifs, au point où il allait persécuter et mettre à mort ceux qui étaient contre, pour lui, le judaïsme. Il y avait un gros problème avec la thèse de Paul, un très gros problème. Si en effet il s'était inspiré de textes comme Nombre 25, le problème, c'est que dans le cas de Phinée, Dieu avait expressément ordonné l'exécution des coupables. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient réellement coupables. Il y avait une idolâtrie liée à la sexualité. Mais dans le cas de Paul, ce n'était qu'une supposition de sa part, et une mauvaise supposition. Paul s'est acharné contre le mauvais groupe de personnes, car Jésus-Christ, et ça c'est la grosse gaffe de Paul, était réellement le Messie. Et les chrétiens étaient le peuple régénéré de Jésus-Christ. Oui, il pensait faire bien, mais en fait, il a fait tout faux. Tout faux. Et c'est intéressant. Dans Acte 9, et ça c'est son vrai témoignage, lorsqu'il va à Damas pour chercher des chrétiens, eh bien, à un moment donné, il est arrêté carrément et clairement par le Seigneur sur la route de Damas. Verset 3 de Acte 9, et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Alors, rappelez-vous, hein, Paul, il est convaincu qu'il fait la volonté de Dieu. Tout d'un coup, une lumière apparaît. Il tombe par terre, verset 4. Et il entendit une voix lui disant, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Vous avez vu la nuance ?« Me persécutes-tu » Mais il persécutait les chrétiens. Et il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Et tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi. » Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnèrent demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Et Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduit à Damas. Là, il vient d'être arrêté littéralement par Jésus-Christ, terrassé. Il est aveugle, il va à Damas. Dieu appelle un homme qui s'appelle Ananias, qui vient l'aider. Et on reprend l'histoire au verset 17 de Acte 9. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé à la maison, il imposa les mains à Saul, disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue et il se leva et fut baptisé. Attendez voir, là c'est du radical. Ça c'est vraiment du radical. C'est un pharisien. Anti-chrétien, tueur, persécuteur, et paf, il est changé en un instant. Il se fait baptiser. Ça, c'est de l'obéissance, au fait. Ça, c'est vraiment de l'obéissance. Son premier grand acte d'obéissance en tant que chrétien, c'est de se faire baptiser, comme le Seigneur a demandé que les chrétiens se fassent baptiser. On a un baptême prévu pour le 25 janvier, hein, je dis comme ça en passant. Vraiment, si vous n'êtes pas encore baptisé, vous devriez l'être. C'est un acte d'obéissance. Prenez l'exemple de Paul. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt, regardez, aussitôt, quelques jours plus tard, qu'est-ce qu'il fait ? Il prêcha dans les synagogues, quoi ? Que Jésus est le Fils de Dieu. Non, attends, va. Là, les gens, ils y comprennent plus rien, quoi. 3 jours avant, il tue les chrétiens. Maintenant, il se lève dans une synagogue, il dit, écoutez, Jésus est le Messie. Tout ce que j'ai fait, c'était faux. Alors, bien sûr, verset 21, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent son nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Waouh! Et ça, mes amis, c'est le contexte de notre texte de ce matin. Ça, c'était que l'introduction. D'accord? Comment expliquer ce qui s'est passé à l'apôtre Paul? Un miracle. Il a été terrassé. Il pensait qu'il avait vraiment raison dans ce qu'il disait. Allons à 1 Timothée 1. Alors vous vous rappelez le contexte? Paul est en train d'écrire au jeune Timothée qui a été laissé à Éphèse pour mettre de l'ordre dans l'église et il vient de lui dresser un portrait des faux docteurs dans l'église d'Éphèse qui faisaient un usage illégitime de la loi. On a vu ça dimanche dernier. Ils essayaient d'utiliser la loi comme moyen pour parvenir au salut. Mais Paul explique à Timothée que cela est une mauvaise utilisation de la loi et que selon le verset 9, la loi n'est pas faite pour ceux qui se croient justes, mais pour les pécheurs. Et la loi nous a été donnée pour nous montrer notre péché, nous conduire à Jésus-Christ. Eh bien, dans son témoignage, ayant eu cette révélation de Jésus-Christ, lui-même a compris le but de la loi, a été terrassé, il a vu son propre péché, a été conduit à Christ et lui a été sauvé. Et c'est intéressant, il explique ces choses et soudainement, à partir du chapitre 1, verset 13, en fait 12, Paul explose dans un hymne de joie et d'action de grâce envers Jésus-Christ car il réalise que c'est précisément ce que la loi et Jésus-Christ avaient fait dans sa propre vie. Lui qui avait essayé de méticuleusement garder la loi n'y est pas arrivé. Il fut écrasé par la réalisation de son propre péché par le Seigneur et il s'est vu, et on vient de le lire, accorder la grâce imméritée de Dieu dans son salut et sa vie fut complètement bouleversée. Donc les versets, en fait, 12 à 17, c'est Paul qui éclate dans un hymne de joie et de reconnaissance à Dieu pour la grâce de Dieu à son égard. Et mes amis, toi qui connais Jésus-Christ personnellement, tu devrais pouvoir t'aligner avec Paul et le remercier pour la grâce de Dieu à ton égard, pour la manière qu'il t'a changé et transformé en Jésus-Christ. Et dans ces versets, on voit que Paul rend grâce à Jésus-Christ pour 7 actions que Jésus-Christ avait effectuées dans sa vie. D'accord? C'est très simple. Je n'ai même pas un PowerPoint parce que c'est tout simple. 7 raisons. Pour lesquels Paul rend grâce à Jésus-Christ. On va les prendre à la fois à partir du verset 12. Numéro 1. Paul rend grâce à Jésus-Christ parce qu'il l'a fortifié. Regardez le verset 12. Je rends grâce. Voyez-vous, il éclate dans cette hymne de joie. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Donc il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Je remercie. Le mot « rendre grâce » veut simplement dire « je remercie ». Je remercie Jésus pour ses grâces et ses bienfaits dans ma propre vie. Et c'est intéressant, il y a des gens qui me posent souvent la question « John, Jésus a dit qu'il faut prier au Père, est-ce qu'on a le droit de prier à Jésus-Christ directement ?» C'est intéressant, il y a un exemple ici. Il rend grâce à Jésus-Christ. Donc on peut rendre grâce au Père ou à Jésus-Christ, son membre de la Trinité. Jésus-Christ, Dieu incarné. Et il dit à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ. Alors dans quel sens est-ce que Jésus avait fortifié Paul? On a l'impression qu'il décrit un petit peu la fin de son témoignage. En partie, oui. C'est intéressant, le mot est le mot dynamo, duquel nous avons le mot dynamite. Donc il dit ici, je rends grâce à celui qui m'a dynamité en Jésus-Christ, ou qui m'a donné la puissance de la dynamite. Et c'est intéressant, verset 11, juste précédent, il dit « Conformément à l'évangile de la gloire de Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. » Donc on voit que Paul, il réalise dans son changement, Dieu lui a confié la bonne nouvelle de l'évangile, et là il l'a fortifié, oui il l'a fortifié pour être un puissant porte-parole de l'évangile. Et il est étonné, Il dit, mais c'est quand même incroyable, mes amis, là je paraphrase, que Jésus-Christ m'a fortifié, moi. Moi qui méritais la mort, en fait. J'étais assassin. Et pourtant, il m'a fait grâce. Et il m'a donné la puissance de la dynamite pour être porte-parole de Jésus-Christ. Là il est bouche bée, il n'y croit même pas. Il est étonné. Il est étonné de ce que le Seigneur a fait avec lui. Je pense que vous pouvez dire la même chose. Moi, je pense à moi aussi, bien sûr. Bon, bien sûr, je n'étais pas comme lui. Je n'avais pas les mêmes péchés. Mais vous savez, un péché, c'est un péché. Hein. Mais moi, quand je pense à ma débauche, à ma vie antérieure à Christ, quand je pense à ma rébellion, à mon idolâtrie, les drogues que j'utilisais, tout le reste, qu'un jour, Dieu se révèle à moi, à New Delhi, en Inde. Et aujourd'hui, je me retrouve pasteur. Mais t'allez voir, des fois, moi, comme on dit en français courant, je me tire des balles, quoi. Je me dis, mais c'est incroyable. Vous demandez à mes amis d'enfance à Choulet, non mais qu'est-ce qui s'est passé à John Gass? Ils vont dire, mais écoute, là, j'y comprends rien, quoi. Vraiment, c'est le dernier gars que j'aurais pu imaginer être pasteur d'une église évangélique à Genève aujourd'hui. Non mais il faut être fou, quoi. Et ça, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et vous avez la même histoire. Exactement la même histoire. Il n'y a que Dieu qui peut nous transformer et nous fortifier, nous utiliser comme de la dynamite. Nous sommes tous des petites barres de dynamite pour cette ville, mes amis. Nous avons un travail à faire. Donc, il le remercie premièrement pour l'avoir fortifié. Deuxièmement, pour l'avoir consacré. Consacré. Encore le verset 12. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Il l'a consacré au ministère où Jésus-Christ l'a, comme il le dit ici, établi dans le ministère. Littéralement, c'est intéressant, il me plaça dans le diaconat. Diaconai en grec. Le diaconat, c'est le service. Dieu m'a pris, il m'a dit, maintenant, Paul, je veux que tu me serves, que tu sois au service du monde, que tu sois au service de l'Église. C'est ça ton rôle maintenant. Alors bien sûr, on voit au verset 1 qu'il avait été appelé en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, limité à certains, pas tous bien sûr, on l'a déjà vu. Mais il avait un rôle très particulier en fait. Par exemple, dans Acte 9, lorsque le Seigneur l'a appelé, l'a converti, il voit déjà exactement quel est son rôle à lui particulier. Acte 9, verset 15, nous lisons, « Mais le Seigneur lui dit, » donc il parle à Ananias, « Va vers cet homme, qui est un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et donc c'est intéressant que dans la liste, la première chose, c'est les nations. Les nations, ce sont les non-juifs. Dieu a appelé Paul à en premier viser les païens ou les non-juifs avec la bonne nouvelle de l'Évangile. On revoit cette même chose dans Romains 15 et le verset 15. « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. » Ça, c'était son rôle premier. Et dans 2 Timothée 1, 11, c'est aussi très très clair, c'est pour cet évangile que j'étais établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Ah, écoutez, ça aussi pour Paul, ça, si on comprend son arrière-plan biblique, parce que pour les juifs, les païens, c'était quoi? C'était vraiment des intouchables, quoi. Ils ne méritaient aucune grâce de Dieu. C'était le peuple haï. C'est pour ça que Jonas, d'ailleurs, quand Dieu lui a dit, mais écoute, je vais convertir Ninive. Il a dit, ah non, surtout pas. Il est parti de l'autre sens. Il ne pouvait pas imaginer que Dieu allait convertir une ville païenne comme Ninive. Les Juifs, ils haïssaient vraiment les païens. Et Dieu non seulement convertit cet homme, ce persécuteur, et lui dit, maintenant ton rôle, c'est en premier d'aller convertir par la parole de Jésus-Christ les païens. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, mes amis. Donc, il est fortifié, il remercie le Seigneur pour l'avoir fortifié, pour l'avoir consacré, et troisièmement, pour l'avoir relevé. Relevé. Verset 13. On est dans 1 Timothée 1, 13. Moi ! Donc, il dit, voilà, il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, verset 13. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Oui, Dieu l'a relevé dans le sens, Jésus-Christ l'a relevé dans le sens qu'il lui a accordé miséricorde. Et on revoit ce terme au verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde. Miséricorde. Alors c'est intéressant comment Paul se décrit de manière très juste. Premièrement, il était blasphémateur. Quelqu'un m'a dit hier, c'est super de voir l'honnêteté de la parole de Dieu. Hein? Quand Paul décrit ses péchés, ben, il les décrit. Quoi. Il n'y a aucune honte. Il n'y a aucune honte, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a été pardonné. Alors bien sûr, il a honte du passé, on est d'accord. Mais il peut parler de son passé comme moyen de montrer aux gens qu'eux aussi peuvent être transformés. Donc il se décrit comme blasphémateur. Il était un outrage à Dieu. Il injuriait ou insultait Dieu du fait qu'il tuait le peuple de Dieu. Il était persécuteur, ça on l'a vu. Dans le dictionnaire, persécuteur veut dire tourmenté sans relâche par des traitements injustes et cruels. Voilà ce que Paul faisait vis-à-vis des chrétiens. Il était homme violent. Ces versets le confirment. « Mais, dit-il, j'ai obtenu miséricorde. » Et ce mot est beau. « Sensibilité à la misère, au malheur d'autrui, bonté, charité, commisération, compassion, pitié. » Aider quelqu'un dans la misère à cause de pitié qu'on a pour lui, et c'est exactement ce qui s'est passé avec Paul. Dieu regardait Paul s'acharner contre les chrétiens, et Dieu a dit, « Il fait pitié cet homme. Franchement, il fait pitié. » Et il aurait pu l'éteindre. Il aurait été justifié de le faire. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est notre sort à tous. Le fait que nous soyons encore vivants, et que nous nous sommes rebellés contre Dieu jusqu'à notre salut, ça c'est une grâce de Dieu. Il nous a fait miséricorde. Il aurait pu nous éteindre au moment de notre naissance, de notre conception en fait. Parce que nous sommes conçus dans l'iniquité, nous dit la Bible. Et pourtant, Dieu a regardé cet homme qui s'acharnait contre son peuple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait miséricorde. Moi qui étais auparavant, verset 13, blasphémateur, persécuteur, un homme violent, mais, quel mais, j'ai obtenu miséricorde. Ça, c'est l'évangile, mes amis. C'est l'évangile. C'est l'évangile. Parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Alors c'est intéressant, oui, il agissait par ignorance, donc il ne reconnaissait pas le fait qu'il faisait quelque chose de mal. Est-ce que pour autant, il était donc pas coupable? Ben non. Je prends un exemple tout bête. Vous êtes dans votre voiture et vous ne saviez pas que la limite de vitesse était 50 et vous ne saviez pas qu'il y avait un radar qui marchait. Et vous faites flasher. Et vous recevez votre PV, 250 francs. Est-ce que vous pouvez plaider? Mais je ne savais pas! Qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous auriez dû savoir, monsieur ou madame. Paul n'est pas excusable. Alors, bien sûr, il a agi en ignorance, mais il est pleinement coupable. Et donc, il a dû recevoir miséricorde de Dieu parce qu'il était pleinement coupable. C'est intéressant que dans Lévitique 5 et dans Nombre 15, le peuple juif devait amener des offrandes pour les péchés volontaires et involontaires. C'est intéressant que dans le psaume 19, David demande au Seigneur de lui pardonner les péchés. Comment il a dit ça? Il dit, oui, pardonne-moi les péchés que j'ignore. Et donc même David, dans le psaume 19, 13, demande à Dieu pardon pour les péchés qu'il ignore. Donc lorsque Paul dit qu'il agissait par ignorance, dans l'incrédulité, c'est vrai, mais il reconnaît sa pleine culpabilité. Nous sommes tous coupables. Donc, on commence à comprendre pourquoi Paul rend grâce à Jésus-Christ, parce qu'il l'a fortifié, parce qu'il l'a consacré, parce qu'il l'a relevé, quatrièmement, parce qu'il l'a gracié, au verset 14, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est presque comme ici Paul résume les versets qu'il vient nous montrer. Christ m'a fortifié, Christ m'a consacré, Christ m'a relevé en me donnant sa miséricorde. Mes amis, tout ça se définit par un mot, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. C'est quoi la grâce? Le dictionnaire définit la grâce comme ceci, ce qu'on l'accorde à quelqu'un pour lui être agréable sans que cela lui soit dû. Faveur, bienfait, don. Et dans le cas de Paul, c'est quoi? C'est le fait d'avoir été fortifié, consacré, relevé d'avoir été sauvé par la grâce merveilleuse de Jésus-Christ et placé dans son service, écoutez, il ne méritait pas. C'est une grâce, tout simplement, de la part de Dieu. C'est quoi la différence entre la grâce et la miséricorde? D'accord? Un. La grâce, c'est, écoutez bien, recevoir ce que nous ne méritons pas. C'est le ciel, de recevoir le salut, on ne le mérite pas. La grâce de Dieu, c'est qu'il nous donne le salut que nous ne méritons pas. La miséricorde, c'est de ne pas recevoir ce qu'on mérite. Nous méritons la mort et l'enfer, nous dit la Bible. Eh bien, Dieu nous accorde le salut, il ne nous donne pas ce que nous méritons. Donc, il ne nous donne pas ce qu'on mérite et il nous donne ce qu'on ne mérite pas. Grâce et miséricorde. Et là, les deux, il reçoit. Ah, mes amis, si vous vous posez des questions par rapport au salut, par rapport à la miséricorde et la grâce de Dieu à votre égard, écoutez, sachez qu'il vous offre tout ça gratuitement. C'est gratuit. C'est gratuit. Regardez ce qu'il dit, sa grâce a, ça vous le connaissez ce mot, superabondé, en grec, très intéressant, écoutez bien, hyper pléonasène, hyper plein. Une grâce hyper plein. Pourquoi? Parce que ses péchés étaient tellement grands, il lui fallait une grâce hyper pleine pour sauver cet homme. Et avec, c'est un, comme une sorte de cadeau de Noël, il y avait non seulement cette grâce, mais avec, il reçoit l'amour et la foi. C'est que Dieu doit même nous donner la foi pour pouvoir croire en lui, dans Philippiens 1, 29. Et cela vient de Dieu, car vous avez été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Dieu doit même nous donner la foi pour pouvoir croire. Oui, réellement, notre salut en Christ est un don de Dieu, rien de nous. Donc, Paul rend grâce à Jésus-Christ de l'avoir fortifié, de l'avoir consacré, de l'avoir relevé, de l'avoir gracié, cinq, de l'avoir sauvé. Écoutez, là, c'est un résumé merveilleux. Regardez verset 15. Ils disent, c'est une parole certaine. C'était un dicton qui se disait à l'époque. C'est une manière de résumer l'évangile très brièvement. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que, voici le résumé, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et rajoute, dont je suis le premier. Alors là, nous avons un résumé hyper succinct de ce qu'est l'évangile, mes amis. Alors regardez, 8 mots en grec. Jésus, Jéhovah est salut ou sauveur, Christ, loin ou le Messie. Il est venu, qui veut dire qu'il est venu physiquement et réellement dans le temps. Ce n'est pas un rêve ni un mensonge. Il est venu où? Dans le monde. Cosmos, c'est notre monde, notre univers, notre demeure terrestre. Oui, Jésus, loin, est venu réellement, qui veut dire qu'il est préexistait. Ça, c'est intéressant. Puisqu'il est venu, ça veut dire qu'il existait déjà auprès du Père. Il est venu où? Dans l'autre monde, pour faire quoi? Pour sauver, qui veut dire faire échapper à quelque grave danger. Il est venu pour nous faire échapper à quel grave danger? Ah, alors ça c'est intéressant. Dans Jean 3, 17, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui, écoutez bien, est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mon ami, si tu es ici ce matin et tu n'as pas reçu Christ comme sauveur et Seigneur, tu es déjà jugé. Et si tu meurs aujourd'hui, tu mourras séparé pour l'éternité de Dieu. Voilà ce que la Bible dit. Tu es déjà jugé. Mais, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Voilà la bonne nouvelle. Ceux qui commettent des fautes. Et combien de gens ont commis des fautes? Tous. Si tu crois que tu es bien par tes bonnes œuvres, réfléchis, mon ami. Car Jacques 2,10 nous dit qu'une faute suffit pour te condamner à un enfer éternel séparé de Dieu. Alors je me suis posé la question, y a-t-il un résumé encore plus bref, quelque part, de l'Évangile? Et là, vous allez vraiment être surpris. David va vous montrer une photo qui va vous étonner. C'est parti. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez cet écusson? Les armoiries, ça se dit bien les armoiries de Genève, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà analysé, on ne va pas l'analyser complètement aujourd'hui. Mais il y a quelque chose de très intéressant parce que même Genève nous résume l'Évangile. Tout en haut de cette armoirie, il y a 3 petites lettres grecques. Est-ce que vous les voyez? Ces lettres grecques sont trois. Iota, Eta et Sigma. Pourquoi y a-t-il trois lettres grecques en haut des armoiries de Genève? Eh bien, parce que ces trois lettres sont les trois premières lettres du mot Jésus en grec. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en latin, ces mêmes trois mots résument ceci. Jésus, sauveur des hommes. Jésus, sauveur des hommes. Bon, je l'ai pas mis. Jésus, hominus, salvator. Et ça, c'était la devise à l'époque de la Réforme. Mes amis, nous avons dans notre propre ville l'évangile résumé. Je vous parie que la plupart des gens n'ont aucune idée de cette armoirie. Jésus-Christ est réellement présent à Genève. Alors maintenant, vous avez vos Bibles. Si vous voulez annoncer l'évangile à quelqu'un, vous prenez aussi l'écusson de Genève, l'armoirie de Genève, d'accord? Et vous leur montrez qu'ils devraient tous croire en Jésus-Christ. Alors bien sûr, il s'appelle lui-même le premier des pêcheurs. Pas parce que c'était le plus grand des pêcheurs, mais il se considérait le plus grand des pêcheurs. Et je pense que tout chrétien qui a connu la grâce de Dieu se considère un grand pêcheur, n'est-ce pas? Et il s'est dit dans Corinthiens 15, 19, le moindre des apôtres, et Éphésiens 3, 8, le moindre de tous les saints. Et vous savez, ça c'est important parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où dans nos églises évangéliques même, on parle toujours de l'estime de soi. Ah, ce qui est important, c'est l'estime de soi. Il faut se sentir bien vis-à-vis de soi-même. C'est l'image de soi qui compte. Il y a un courant qui dit que tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est vraiment de faire que les gens se sentent bien d'eux. Eh bien moi, je crois que Paul n'avait pas une très grande estime de lui-même, personnellement. Non, il se considère le plus grand des pêcheurs, il se considère le moindre des apôtres, en Corinthiens 15, 9, et le moindre de tous les saints. Il avait une très mauvaise estime de lui-même, mais il a été gracié par Jésus-Christ. Et oui, son estime est venue de Christ, pas de lui-même. Donc, Christ l'a fortifié, l'a consacré, l'a relevé, l'a gracié, l'a sauvé, s'il l'a utilisé. Alors ça, c'est vraiment merveilleux ici. Regardez verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier de toute sa patience ou longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. C'est le mot exemple ici qui est intéressant. Alors bien sûr, Jésus a montré beaucoup de patience vis-à-vis de Paul. Le mot exemple, c'est intéressant. C'est le mot qui parle, vous savez, si vous avez un tampon et vous tamponnez avec de l'encre sur une page, clac, clac. Eh bien, l'image sur la page est la représentation exacte du tampon. Et c'est l'idée ici. La marque laissée par le coup d'un tampon est l'exemple ou l'impression. Et donc, Paul s'appelle quoi? Il dit que Christ lui a montré sa patience, il l'a sauvé, pour qu'il serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Dans 2 Timothée 1, 13, le même, pas tout à fait le même mot, mais presque, « Retiens le modèle des saines paroles que tu as reçues en moi. » Voyez-vous, dans le cas de Paul, sa vie graciée et sauvée devint le modèle parfait, l'exemple parfait, la copie parfaite de ce que Jésus-Christ peut faire dans une vie lorsqu'il la sauve. Alors, je te pose une question. Tu es chrétien? Bien. Est-ce que ta vie est un exemple, le tampon représentatif d'une vie transformée par Jésus-Christ? Les gens vous regardent, mes amis. Les gens vous regardent. Et ils t'entendent parler de Christ, de ton église, de tes louanges, de la parole. Vous savez ce qu'ils font? Ils regardent et ils se disent, est-ce que ta vie est conforme à ce que tu prétends être? Moi, j'ai eu un rappel de ça de manière époustouflante il y a quelques semaines en arrière. J'ai reçu un coup de téléphone. Et ce coup de téléphone est venu de personnes qui travaillaient chez nous quand j'étais enfant. Il y a, écoutez bien, 40 ans en arrière. 40 ans. Ils habitent encore à Genève. C'est un couple qui travaille chez nous. Je n'avais pas parlé avec eux depuis toutes ces années. Et ils m'ont dit qu'ils étaient. Et puis c'était super, quoi. J'avais des frissons. Là. C'est génial. On discute, on parle. Comment vous allez? Enfin, on a fait 5-10 minutes de souvenirs. Et à un moment donné, le mari s'est mis au téléphone et il m'a dit « John, écoute, tu sais, je t'écoute assez souvent à la radio. Ah, je dis, ah, ben, c'est génial ça, t'en vas. Donc ça marche la radio de temps en temps, d'accord? Alors il dit, ouais, je t'écoute. Je dis, ah, ben écoute, c'est vraiment super et tout, et tout. On n'était pas dans la conversation 10 minutes, il me dit, maintenant, John, tu sais, il y a 2-3 semaines en arrière, t'as dit un gros mot à la radio. Je lui dis, quoi? Il a dit, ouais, t'as dit un gros mot à la radio. Je dis, mais comment j'ai dit un gros mot à la radio? Je crois pas m'être rappelé d'avoir dit un gros mot pendant un message le dimanche matin. Et si je l'avais fait par accident et je l'avais pas réalisé, je pense que la moitié de l'église se serait ruée sur moi. Et surtout ceux qui éditent les messages auraient édité ce gros mot. Donc je ne pense pas vraiment que j'ai dit un gros mot. Alors apparemment, il a dû comprendre quelque chose que j'ai dit comme étant un gros mot. Mais j'ai trouvé très intéressant. Je n'avais pas parlé à ces gens depuis 40 ans. On parle 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, il est en train de me montrer que pour lui, il y avait une faille entre mon message et ma vie. Et là, je me suis dit, John, fais gaffe. Parce que les gens regardent. Et ils écoutent. Et ils veulent voir si notre vie est vraiment authentique. C'est pas une mince affaire, mes amis. C'est pas une mince affaire. Et là, c'est exactement ce que Paul est en train de dire ici. J'ai obtenu miséricorde, verset 16, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Et oui, notre exemple est un moyen puissant pour que les gens viennent à Christ. Ils regardent nos vies et ensuite ils entendent le message que nos vies proclament. Alors tu dis, ouais, John, écoute, ça, je suis un chrétien, mais tu sais, des fois, j'ai vraiment fait des stupidités, des bêtises, et ma vie n'est pas toujours conforme. Alors je fais quoi? J'arrête de dire aux gens que je suis chrétien? Non. Non, on est appelé à être témoin, acte 1-8. Vous savez, ça va nous arriver à tous. On va parfois faire une bêtise, ne pas avoir un bon témoignage, dire quelque chose ou faire quelque chose qui n'était pas ce qu'on aurait dû faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, moi, je dirais, reconnais-la. Si tu l'as fait, bien sûr. Dans mon cas, j'étais convaincu que je n'avais pas fait ce qu'on me disait que j'avais fait. Alors, j'ai dit, écoutez, appelez mon éditeur. Non, je n'ai pas dit ça. Ensuite, demandez pardon. Demandez pardon. Dis, écoute, j'ai gaffé. J'ai mal agi. Puis, troisièmement, expliquez-leur que le Seigneur travaille dans votre vie et tous les problèmes ne sont pas réglés d'un jour à l'autre. Et que Dieu me montre une grande patience comme il a fait pour l'apôtre Paul. Et ensuite, demande au Seigneur de te changer pour que la prochaine fois, ça n'arrive pas. Vous savez, la grâce et la miséricorde de Dieu, elle est immense. Ceci dit, notre vie doit être un exemple. C'est cette tension perpétuelle, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous aide. Et je termine avec le dernier point. Non seulement il l'a fortifié, il l'a consacré, il l'a relevé, il l'a gracié, il l'a sauvé, il l'a utilisé. Numéro 7, il l'a transformé en adorateur. Regardez le verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Paul avait commencé cette section au verset 12. Je rends grâce. Là, c'est un hymne de louange. Il remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il termine avec ce même hymne de grâce. Et là, il remercie bien sûr Jésus-Christ tout le long. Et ensuite, là, il remercie vraiment le roi des siècles, le Seigneur lui-même, le roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Roi des siècles, c'est une référence au Dieu éternel, immortel, le fait qu'il soit incorruptible et impérissable, sans fin, invisible. Oui, il est invisible, mais c'est intéressant que dans Jean 14, 9, n'aura-t-on pas ça? Jean 14, 9, Jésus dit ceci, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu, montre-nous le Père? Oui, Dieu est invisible, mais il s'est révélé en Jésus-Christ. Tu vois Christ, tu vois le Père. Donc il est invisible, il est le seul Dieu, très intéressant, roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux, mes amis. Il y a un Dieu, et les autres dieux sont les faux dieux. Il a un fils, Jésus-Christ. Point à la ligne. Soit honneur, il mérite honneur, valeur divine. Il mérite la gloire, la majesté, au siècle des siècles, pour toute l'éternité. Amen. Ainsi soit-il. Et ça, mes amis, C'est l'histoire de l'apôtre Paul. Une vie complètement transformée par Jésus-Christ. Et c'est ton histoire aussi, et la mienne. Et Dieu veut nous utiliser, mes amis, dans cette ville. Super Flavius. Il va jouer un petit peu, on va prendre juste une minute de silence pendant qu'il joue. Faites le point dans vos propres vies. Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui pour être conforme à ce texte? Peut-être tu es chrétien ce matin et tu dis, ouais, super, le Seigneur était bon et je crois que ma vie est en règle. Ben, bénis-le. Et demande qu'il te donne encore un plus grand zèle. Peut-être tu es chrétien ce matin et tu dis, ah là là, moi ça va vraiment mal, quoi. Là je passe par une phase difficile et ma vie n'est pas conforme. Demande pardon. Peut-être ici tu ne connais pas Jésus-Christ. Eh bien, demande que Jésus-Christ bouleverse ta vie comme Jésus-Christ a bouleversé la vie de l'apôtre Paul. Attirons-nous quelques instants et faisons le point. Seigneur, merci pour la vie de l'apôtre Paul et pour ce que nous avons appris ce matin sur lui. Seigneur, utilise-nous comme lui. À toi la gloire.